compris le bulletin, et même d'une manière générale. Finalement, en Hongrie, il est assez mal connu. Et donc, je me suis dit qu'il faudrait commencer à faire une sorte d'enquête sur toute, pas sur la ville elle-même, parce que ça, c'est énorme, mais sur ce qu'on peut appeler la proche banlieue et la grande banlieue, et même les villages qui sont autour. En fait, ça a tellement changé depuis si peu de temps, parce qu'il y a quand même, vous verrez, en 1923, des chiffres qui nous montrent que toute cette grande banlieue était pratiquement pas peuplée. Il y avait presque personne, vous voyez. Dans un village comme Les Bélis, il y avait 3 maisons. Dans un village comme Rivet, il y en avait 2. Et ça, en 1923, vous voyez, ça fait même pas 100 ans. Ça veut dire que ça a changé extraordinairement. Et c'est surtout cette partie nord de la Corrèze qui a beaucoup changé. Alors, d'une manière générale, elle est beaucoup plus petite, cette partie nord de la Corrèze, que la partie sud de la Corrèze. Parce que presque tout de suite, là, on est arrêté par Ussac, qui est séparé de Brive par une très très vieille route de Crète, qui longe toute la Crète des collines, et qui est vraiment une route très très ancienne. Et un petit peu pareil pour la Nord, qui est également très proche, parce que ça passe juste à côté de Lacan, vous voyez, et qui est là encore une route qui descendait vers la Corrèze. Donc c'est petit. Alors on va voir sur cette carte qu'on voit surtout, mais nous reverrons. Alors elle est évidemment orientée bizarrement. Au XVIIIe siècle, vous voyez, on mettait les cartes un peu dans n'importe quelle orientation. Et ici, en l'occurrence, Brive est écrit dans le sens est-ouest. Mais M. Lestani nous l'a remis dans le sens logique, qui est le nord, en haut, le sud en bas. Et donc, ce que vous voyez, c'est le moment où on construit le pont neuf, le pont cardinal, où on cesse d'utiliser les vieilles routes, mais elles sont encore visibles, et où la Corrèze vient d'être canalisée, donc traverser le pont, mais à garder un très long canal, vous voyez, important, qui passe jusqu'au moulin, qui se trouve, lui, ici, à la porte qui était appelée la porte de Corrèze, la porte du pont. Voilà, ça c'est pour vous montrer plutôt l'ensemble de la région. Et puis vous voyez, voilà. Alors ça va être très scolaire, hein, parce que moi j'aime bien le papier quadrillé.
Oui.
Alors vous allez voir, c'est vrai, papier quadrillé. Donc, ici, vous avez, vous voyez l'ensemble des quartiers de Brive. Vous voyez l'énorme différence entre le nord de la Corrèze, où il y a seulement 2 sections cadastrales, un et B, mais c'est tout petit. Et en revanche, la partie sud de Brive, qui, elle, au contraire, est très très vaste, vous voyez, avec ce qu'on pourrait appeler une première banlieue J-I-E-D-C, c'est-à-dire la première zone, voilà, et puis des villages, qui sont, eux, encore, on peut dire, préservés de l'urbanisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette région nord, disons d'une manière générale? Tout d'abord, il faut imaginer que c'est des régions essentiellement viticoles, que ce soit au Moyen-Âge ou que ce soit jusqu'au Financeur, c'est-à-dire jusqu'en 1880. Pratiquement, on considère que 24% du sol dans la région nord de Brive est utilisé pour des vignes. Et ça, c'est le cas de toutes les collines. Ensuite, le reste, ce sont des prés. Et les prés, donc, occupent la vallée, tout simplement. En revanche, au sud de Brive, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez des villages qui vivent surtout du seigle et des châtaignes, comme la Brousse, ou comme l'Aumont, comme Béret. Mais là, au nord, c'est purement et simplement des vignes et des prés. Ensuite, dans les deux cas, que ce soit les vignes ou les prés, le bétaillage est à peu près généralisé. C'est-à-dire qu'à peu près partout, on a des grands propriétaires. Alors vous verrez que ça passe des seigneurs et des abbés, ensuite aux bourgeois, mais enfin ce sont toujours de grands propriétaires. Et en général, ils ne cultivent pas eux-mêmes, enfin ils ne s'occupent pas eux-mêmes de leur domaine. Ils le mettent en étayage ou en fermage. Ensuite, la population a beaucoup changé. Et ça, on ne s'en rend pas compte, parce qu'il faudra avoir des textes très anciens pour s'en rendre compte, et il y en a quelques-uns qui nous permettent de constater qu'au début du Moyen-Âge, tout le nord de Brive, toute cette région, était extrêmement peuplée. Vous prenez par exemple un petit village comme Rivet. Il n'y avait pas une maison comme il y en aura au XVIIIe siècle, mais il y en avait au moins une dizaine, et chacune avait un nom différent, qui était le nom de l'habitant, du tenancier. Vous voyez, ça veut dire que finalement, c'était extrêmement peuplé. Tout début du Moyen-Âge, XIIIe siècle, disons par exemple. Ensuite, la population va décroître. Alors la première raison de la décroissance, c'est qu'il y a eu des aléas climatiques. Il y a eu des moments où les vignes étaient tout à fait abandonnées parce que ça n'allait pas. Ensuite, il y a eu des guerres. Et c'est une région qui est particulièrement mal située au moment de la guerre de Cent Ans, parce que par là passe tout le monde. Et donc la population décroît. À la fin de la guerre de Cent Ans, c'était presque rien. Il ne restait plus personne, presque. En revanche, dans les villages du sud, qui sont plus isolés, et souvent dans des petites vallées, vous voyez, la population est restée nombreuse. Et donc, il a fallu repeupler cette région-là. Et on ne l'a pas vraiment repeuplé, puisque les bourgeois de Brive ont considéré que c'était des terres qui étaient très intéressantes pour eux. Ils les ont donc achetées. Et ils ont essayé d'avoir le moins possible de bétail, un seul par village, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc c'est resté très faible jusqu'en 1923. Et à partir de 1923-1930, la situation se débloque, si on peut dire, par l'ouverture des ponts. On ouvre les ponts de Brive et les gens s'en vont habiter dans cette région. Mais c'est très tardif. Puis on verra ça tout à l'heure. Voilà. Je vais commencer par quelque chose de très curieux. C'est le village de Chasteloup. Chasteloup, c'est à l'extrémité ouest de Brive, tout à fait coincé entre la voie rapide, la nationale, l'autoroute et le chemin de fer. Hein? Il y a tout ça. Mais ce village de Chasteloup, voilà à quoi il ressemblait donc dans l'ancien cadastre, c'est-à-dire au 19e siècle. Alors, je vous convie de regarder les lignes vertes. Ça a vraiment l'air d'un espèce de château. Alors, ça pourrait faire penser à un château Jean Vauban, mais bien entendu, ce n'est pas un château Jean Vauban. Ça serait plutôt un camp romain. Oui. D'autant plus que c'est le seul endroit à Brive où on a découvert des urnes cinéraires. Vous savez, les urnes cinéraires, c'est ces urnes qui servait pour enterrer les morts avec des cendres dedans. Et c'est là aussi que, paraît-il, ça se passait vers 1880, au moment où on faisait le chemin de fer, dans toute la zone qui s'appelle les Palaines, vous voyez tout en haut, les Palaines, on a trouvé des quantités de poterie et d'un romain, quoi. Ça veut dire que très probablement, effectivement, à cet endroit-là, il pouvait y avoir une sorte de camp, une sorte d'installation gallo-romaine. Et d'ailleurs, le nom Chasteloup, c'est très souvent, non pas des châteaux, mais des anciennes installations romaines. Alors ça peut être une villa, tout simplement. Hein. Mais très souvent, quand un endroit s'appelle Castel ou Casteloup, ou un nom comme ça, c'est pas du tout féodal et médiéval, c'est gallo-romain. Parce que, bon, dans le temps, on appelait ça souvent les châteaux de César aussi, vous voyez. Les paysans, puis même les érudits, étaient persuadés que c'était des vieux châteaux. Mais c'est pas souvent des châteaux. Alors ça se trouve au point de vue stratégique, si vous voulez, au confluent de la Bézère et de la Corrèze, ou si vous préférez plus exactement du Mauban et de la Corrèze, c'est un endroit intéressant. Ça commande la vallée, vous voyez, la petite vallée qui remonte vers Donzac, et aussi toute la vallée qui descend ensuite vers l'Arche, quoi, vers la Bézère. Alors, pour vous donner une idée de ce que c'était au 19e, vous voyez, il n'y avait que deux maisons. Deux maisons seulement. Et si on aime plus de précision, ces deux maisons devaient une rente de 3 sequiers de froment, 3 sequiers de seigle et 3 sequiers d'avoine. Et puis il y a la note qui nous montre qu'il s'agit de deux maisons, deux poules. En principe, on avait une poule par maison. C'est, oui, c'est-à-dire que dans les anciennes branches du Moyen-Âge, qu'on payait au seigneur, on sait que chaque fois qu'on a une poule, ça veut dire qu'il y a une maison. En revanche, les sorties de froment, les quantités de froment ou de sel, c'est difficile à déterminer. Et donc, ce village de Chasteloup a appartenu à l'évêque de Limoges, c'est un fief de l'évêque de Limoges. Et au tout début du Moyen-Âge, on l'appelait Chambon, ou on l'appelait aussi Brouloup, ou encore Chasteloup. Ça veut dire qu'une des maisons, c'était la maison des Chambon, l'autre, c'était la maison des Brouloups, et la troisième, il y en a trois, la maison des Chasteloup. Voilà. Alors ça, pour vous montrer le plus ancien exemple qu'on possède à Brive d'une possible installation gallo-romaine. Et nous passons donc à quelque chose de plus médiéval. Et nous sommes sur les pas de Saint Libéral. Vous connaissez Saint Libéral, qui est un saint purement borésien et même purement briviste, comme d'ailleurs Saint Martin l'Espagnol, le patron de Brive. Et Saint Libéral est censé, d'après sa vie, l'histoire de sa vie, avoir vécu, dans les années 800 à peu près, 800-900, et puis il y a des précisions qui sont données, ce qui nous donne, si vous voulez, un ordre d'idée générale. Alors ce Saint Libéral, vous connaissez son histoire, tous les brivistes la connaissent. Il est le fils d'un boulanger qui est originaire du Cours, le Cours du Sac. Ses parents possèdent un domaine. Il faut croire que les boulangers avaient quand même des domaines à cette époque si ancienne, qui s'est appelé plus tard la Borderie de Saint-Libéral, et qui correspond au quartier qui est au-dessus de l'église des Roses, dans la colline, et en particulier la maison qui a servi de station thermale un petit moment quand il y a eu la source des Solières et qu'on a essayé de faire de l'eau thermale, enfin de l'eau minérale avec. Vous voyez ce coin? Donc c'est tout ce petit fond de vallée qui était propriété donc des parents de Saint-Libéral. Alors Saint-Libéral devient maître d'école à Brive. Il se met à avoir tellement de succès que tout le monde l'entoure. D'autre part, il fait des miracles. Et en particulier, comme son père était boulanger, eh bien, il multiplie la farine et la pâte dans la main du boulanger. Alors ça rappelle Saint-Étienne de Bazine, hein, qui faisait les mêmes miracles. Et bref, il devient tellement célèbre qu'il veut quitter Brive. C'est tout à fait classique quand on est quelqu'un de très religieux. On veut cesser d'être comme ça, admiré par tout le monde. Alors on lui fait une existence assez errante. On l'envoie se balader, en particulier à Meaux. On l'envoie se balader encore dans le nord, un peu plus haut, je crois même à Verdun. Et puis finalement, il débarque à Embrun. Embrun, c'est vraiment pas le même coin. C'est la Provence, la Haute-Provence. Et c'est une région qui, à son époque, est en proie à des raids de Sarrasins. C'est-à-dire que les Sarrasins étaient installés sur la côte, pratiquement à Nice, si vous voulez, ou dans tout cet arrière-pays, et ils faisaient des raids dans l'intérieur, des raids de pillage. Alors l'évêque d'Embrun a été massacré, ses prêtres aussi, et la population demande à Saint-Libéral d'être évêque. Donc il va devenir évêque. C'est un beau succès pour un fils de boulanger. C'est rarissime. À l'époque, tous les évêques, c'est des fils de très grands seigneurs. Mais bon, les gens d'Embrun, qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est peut-être pas le choix. Il va rester quelques années, et puis, deuxième attaque de Sarrasin, et cette fois-ci, il perd confiance, et il s'enfuit. Il s'enfuit de ce qui reste des ruines d'Embrun, avec les reliques de Saint Maximin, qui était le saint local. Ensuite, il traverse le massif central, et bien, il revient chez lui. Mais beaucoup d'années avaient passé. Il est très âgé maintenant, il doit avoir dans les 60 ans, 70 ans. Personne ne le reconnaît. La tradition et la coutume veut qu'il passe par Fada, ensuite par Angignac, ça se trouverait pas très loin au-dessus de l'hôpital, vous voyez, Angignac, en mémoire de son passage, il y a une croix, qui sera dressée au XVIIIe siècle. Ensuite, il descend chez ses parents, à Brive. Ils habitaient, comme vous le savez, le quartier de Saint-Libéral, c'est facile, puisque la grange de ses parents était à l'emplacement de l'actuelle chapelle. Oui. Personne ne le reconnaît. Il va donc passer ses derniers jours dans la grange de sa mère. Sa mère a bien voulu l'accueillir, entre parenthèses, elle ne devait pas être jeune, puisque lui, il avait déjà 60 ans, peut-être plus, mais vous savez que les femmes ont une grande espérance de vie. Donc, elle non plus ne l'a pas reconnu. Hein. C'est normal. Et il meurt dans la grange. On l'enterre dans la grange. Ça aussi, c'est un peu douteux, mais c'est comme ça. Et une servante, ayant aperçu qu'il s'était rendu compte qu'il avait un anneau d'or au doigt, nuitamment, vient dans la grange pour le déterrer et récupérer l'anneau. Et immédiatement, une lueur embrase la grange. Tout le monde se rend compte que c'était un saint, que c'était saint libéral, que c'était libéral. Et voilà que son culte commence. Et alors là, vous avez donc, dans ce quartier, cette chapelle Saint-Libéral. Ce qu'il y a de curieux, c'est que le prieur de Brive, alors au moment de la mort de Saint-Libéral, il n'y avait pas encore de prieur. Mais plus tard, les prieurs de Brive n'ont pas revendiqué cette église, cette chapelle, plus exactement l'église. C'est les consuls de Brive qui l'ont revendiquée. Les consuls de Brive prétendaient qu'elle était à eux. Et d'ailleurs, pour montrer qu'elle était à eux, de temps en temps, ils faisaient des distributions de nourriture, voyez, aux pauvres, aux soldats. C'était bien pour montrer que ben, c'était eux qui étaient propriétaires. Cette église, ensuite, elle a été donnée pendant la guerre de 100 ans aux Dominicains. Parce que les Dominicains, ils habitaient par là, et leur maison avait été détruite pendant la guerre, et on leur avait donné cette église. Ils ont eu d'ailleurs du mal à la lâcher. Il a fallu qu'on leur reconstruise leur couvent avec chapelle pour qu'ils acceptent de lâcher Saint-Libéral. Donc c'est un cas un peu particulier. Et j'en arrive à Saint-Étienne de Bazine. On peut se demander à quel moment ce culte de Saint-Libéral a été développé. Alors sûrement pas au début, parce que c'est trop particulier, vous voyez. Ça a pu faire l'objet d'une petite vénération locale dans le quartier, mais ça n'a pas pu aller plus loin. Alors, c'est très probablement Saint-Étienne, de Bazine, et surtout ses moines, après lui, qui ont développé cette dévotion à Saint-Libéral. On voit d'abord qu'il y a beaucoup de points communs dans leurs deux vies. Il y a le fait de cette histoire de pétrin et de boulangerie, parce qu'effectivement, Saint-Étienne de Bazine avait été célèbre à cause de ses multiplications de pain. Et puis ensuite, parce qu'on a donné, plus exactement les seigneurs de Malemort, ont donné à l'abbaye de Bazine des endroits qui correspondent presque exactement aux endroits d'où on dit que Saint-Libéral est plus ou moins propriétaire. C'est pour ça qu'on va donner des rentes aux bénis, les bénis, vous voyez, il y avait les bénis hautes dans la colline et les bénis basses dans la plaine. Dans un endroit un peu bizarre qui au Moyen-Âge s'écrit San Azo. Alors San Azo, ça correspondrait à peu près au pont de la Bouvie. Vous voyez, la zone du pont de la Bouvie de l'église des Rosiers. Alors San Azo, ça veut dire quoi? Saint quelque chose? Ça a été transformé. Alors d'abord en Savojou, Savojou, et ensuite maintenant Sauvajou. Vous voyez la déformation? Bon, et ça, c'est une zone de plaine, hein, c'est une zone de pré. Ensuite, la chaise. Alors, la chaise, c'est plus intéressant, ça veut dire l'église. Ça veut dire que probablement, dans ce coin-là, qui correspond à peu près à la place de la Libération, vous voyez, quand on commence à monter sur les collines, entre l'hôpital, si vous voulez, et puis le quartier des Rosiers. Bon, alors ça, cette chaise, ça veut dire qu'il y a une église. Hein. Et peut-être une petite église, justement, de Saint-Libéral. Puisqu'on n'était pas loin de ce qu'on appelait la borderie de Saint-Libéral, c'est-à-dire son domaine. Il y a eu très longtemps, jusqu'au XVIIe siècle, un pèlerinage, on venait boire l'eau de la source de Saint-Libéral. Alors M. de Nussac, qui était un érudit local, pensait que c'était une petite source qui descendait derrière l'école des Rosiers, c'est-à-dire qui descendait depuis les collines derrière l'école des Rosiers. C'est à se demander si ce ne serait pas plutôt la source des Saulières. Parce que la source des Saulières, elle a des vertus minérales. Les gens venaient à ce pèlerinage pour se faire guérir. Ils disaient que c'était une source guérisseuse. Il y a beaucoup plus de chances pour que ce soit cette source-là. Mais ce n'est pas loin, vous voyez. Disons que l'une est là et l'autre est là. Ensuite, ils se font donner aussi, les gens d'Aubazine, des vignes au Vianmur, des terres au Pararis. Les Pararis, c'est l'autre côté du pont. Et c'est maintenant ce qu'on appellerait le bout du pont, vous voyez, l'autre côté du pont. Pararis, ça veut dire des moulins qui servent pour les tissus, pour les draps. Ça veut dire que très probablement, il y avait par là des moulins à draps qui étaient probablement par ici, quoi, sur la Corrèze. Bref, vous voyez, et puis là-haut, aux Tondries. Les Tondries, c'est aussi sur Ussac, là, beaucoup. Vous voyez, c'est des points qui correspondent un petit peu à Saint-Libéral. Donc on peut dire que très probablement ce sont les cisterciens de Basine qui ont fondé ce culte. Et il a eu vraiment sur place beaucoup de succès. Vous pouvez repérer dans les familles, pour les gens qui font de la généalogie, la quantité de gens qui s'appellent libéral.
Même libéral, eux, pour les femmes.
Et les libérales pour les femmes. Alors ce qui est amusant, c'est que souvent elles sont du quartier. Parce que la maison de Basine avait une maison ici. Une maison qui se trouvait juste à côté de l'église. Saint-Libéral, donc, certainement, ils ont activé, vous voyez, ce culte. Finalement, il y en a presque plus que des Martins. Parce que quand même, c'est le saint emblématique de Rive. Mais des libérales, alors là, vraiment, on en trouve beaucoup. Voilà pour Saint-Libéral et pour ce quartier. Donc, des vignes et des lieux qui sont des prés. Maintenant, nous passons donc à ces passages sur ma Corrèze. Alors, il y avait un spécialiste de la question qui était M. Dautremant. M. Dautremant a fait beaucoup de conférences et beaucoup d'études sur les ponts et les passages de la Corrèze. Alors, le premier passage bien connu, c'est celui qui prend en biais la ville, qui passe au pont du Bruy et qui continue en direction de Paris. Celui-là, il est censé avoir servi jusqu'à ce que le vicomte de Turenne, très méchant personnage, le détruise, théoriquement, vers 1403. Voilà, alors ça serait, si vous voulez, le premier chemin pour traverser la Corrèze. Ensuite, il y a un deuxième chemin qui consisterait à suivre le bord du canal, à se retrouver à la passerelle, ou si vous préférez, à la digue, qui traversait pas d'ailleurs à l'époque, la Corrèze est passée ici, hein. Donc passait là, et ensuite remontait, voilà, jusqu'à Flada, pour ensuite repartir droit sur Paris. Ça, c'est ce qui est le plus direct pour aller à Paris. On peut dire que ça a été probablement utilisé très très longtemps. Soit les gens suivaient le bord du canal, à l'époque c'était la Corrèze, soit ils passaient le long de la Vierge, vous voyez, d'ailleurs c'est encore un chemin, c'est la route quoi, qui longe tout simplement la Vierge, le jardin public, traversaient sans difficulté à ce moment-là les marécages, parce qu'il n'y avait pas encore ce canal, vous voyez, et ensuite allaient presque tout droit pour Fada. Il faut attendre le 18e siècle, 1743, pour qu'on fasse un troisième circuit, c'est-à-dire qu'on construise une route bien faite, parce que là il n'y avait qu'une chaussée, un pont, on commence par construire un pont, ensuite une route, vous voyez, qui passe autour de la Pigeonnie. Et ensuite, on dérive une grande partie du canal, qu'on le dérive sous le pont. Brive est la seule ville qui a commencé par faire un pont et qui a mis l'eau en dessous. Ça veut dire que c'était très bien pour les constructeurs. Hein. Ils étaient tranquilles, ils étaient dans la base. Parce que quand même, c'était très beau et marécageux, tout ça. Mais au moins, ils n'avaient pas trop de problèmes. Alors c'est un avantage, en même temps, c'est un petit peu un inconvénient, parce que la Corrèze fait vraiment figure de... C'est une rivière, c'est un canal, quoi. Mais c'est un peu dommage, surtout qu'il est très entouré de murs. La Corrèze a dû être quand même beaucoup plus amusante, beaucoup plus drôle à observer. Mais surtout, il ne faut pas perdre de vue que les gens pouvaient passer n'importe où ici, vous voyez, ou là, tant qu'ils voulaient, tant qu'il n'y a pas eu la Corrèze. Autrement dit, se demander où exactement la route, c'est compliqué. Alors, le premier chemin, c'est donc le chemin de Fada. Et ça restera le chemin de Fada jusqu'au XVIIIe siècle. Jusqu'au XVIIIe siècle, Fada aura des charrons, des forgerons, et des gens qui étaient sur le sommet de la route, si vous voulez, avant la descente sur Brie ou avant le départ d'Adonzac. Et donc c'était un gros village. En revanche, la Pigeonnie, elle est un peu en dehors de la route. Le vrai village, la Pigeonnie, on verra tout à l'heure, et lui, c'est pas lui qui a été déterminé par la route. Vous voyez, il existait avant. On continue. Alors, voilà Fada. Alors, on arrive de Fada à Parna. On arrive de Brie par Parna. Ensuite, la route montait et allait vers ce qu'on appelait le bois de Tulle. Ou bien alors, elle allait par ici et elle rejoignait une grande route. À l'origine, et disons jusqu'à la guerre de Cent Ans, ça s'appelle pas Fada, ça s'appelle Artansa. Artansa, c'est le nom d'une famille de seigneurs de Tulle, qui sont des fidèles de l'abbé de Tulle, plus tard évêque de Tulle, et toute cette région appartient plus ou moins à l'abbé de Tulle. On a l'impression, parce qu'il y a un endroit qui s'appelle le bois de Tulle, il y a un autre endroit qui s'appelle le pré d'Artansa, on a l'impression que ce seigneur d'Artansa était là pour surveiller la route pour le compte de l'abbé de Tulle, plus tard évêque. Ensuite, alors là on arrive au moment de la guerre de Cent Ans, il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Fada et qui est probablement originaire de Brive, parce qu'il y avait une famille Fadet ou Fada à Brive, qui s'installe. Disons, on le trouve à peu près vers 1400. Son ancêtre, ou alors disons son père, qui s'appelait Raymond Fadet, avait trahi la ville de Brive au moment où les Anglais l'avaient occupée. Il avait été pro-anglais. Et donc, on avait confisqué ses biens. Il est très possible qu'il ait voulu changer de nom. Au lieu de s'appeler Fadet, s'appeler Fada. Et puis, prendre une certaine distance et s'installer à Fada plutôt que de Bastia. Et voilà pourquoi ça s'appelle Fada. Et voilà pourquoi il ne faut pas se demander pourquoi il y a des fées. Parce qu'il y a une étymologie, vous savez, un endroit où il y a des fées. Puisque en Occident, Fada, ça veut dire la fée. C'est pas la peine de se demander que ça. En fait, le nom, c'est Artansa. Et ce qui caractérise ce village, c'est qu'il a pratiquement pas bougé. C'est presque le miracle du coin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu pratiquement de grands seigneurs qui aient voulu l'occuper, pas non plus de bourgeois de Brive qui aient voulu faire un domaine et qui auraient expulsé les paysans et détruit les maisons. On a l'impression que c'est les mêmes familles depuis le Moyen-Âge. D'ailleurs, on le voit à leur nom. Au départ, c'est des Fadas. Et ça continue jusqu'au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, vous avez Bernard Fada dit Bachel, Jean Fada dit Ders, Guino Fada dit Fronti, Jean Fada dit Lomé, Anne Fada. Et puis il y a Pénel Fada, qui est la sœur probablement d'un de ces messieurs, et qui est l'épouse d'Émile Durand, qui est le forgeron. Et qui est venu donc s'installer chez sa femme, ou chez ses beaux-frères. Vous voyez comment se font les noms à ce moment-là. Parce que ces gens qui s'appellent Fada, maintenant ils s'appellent Franti. Vous comprenez? Ou ils s'appellent Pachel. Ouais. Ils ont supprimé Fada parce que c'était trop Fada pour moi. et ils ont pris leur surnom. Alors le problème, ça serait pourquoi ces surnoms? Ce n'est pas des surnoms de terre, il n'y a pas de terre qui s'appelle Franti ou Pachel. C'est probablement des sobriquets, les noms qu'on leur donne parce qu'ils ont tel ou tel aspect, c'est pas sûr, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, voilà, vous allez avoir ensuite des Lomets, des Frantis, et des Lerses et des Pachem. C'est pour ça que c'est difficile de faire de la généalogie au Moyen-Âge, vous voyez. On tombe tout de suite sur des gens qui ont plusieurs noms, et qui sont capables d'en changer dans tous les sens. Ensuite, vous voyez, des Phalas, on va pratiquement passer à des familles alliées, et on les retrouve donc jusqu'au bout. Est-ce que c'est intéressant d'être sur une route, c'est-à-dire sur la route de Paris-Toulouse? Alors, c'est pas très intéressant quand il y a des guerres. Et le problème de Fada, c'est qu'en particulier au moment de la Fronde, c'est-à-dire aux alentours de 1650, sont venus loger dans ce coin-là une quantité de cavaliers et de fantassins qui faisaient partie d'une des armées du roi, qui étaient donc hostiles et opposés au vicomte de Turenne, qui était frondeur, et qui était très content de s'installer dans des villages qui dépendaient de la vicomté de Turenne. Parce que là, on est en limite de la vicomté de Turenne. Hussac en fait partie. Ils se sont donc installés là. Ils étaient quand même 2000 cavaliers qui ont campé pendant 8 jours. Il faut vous imaginer le dégât après leur départ. Généralement, ces cavaliers, dans les maisons, pour se chauffer, ils brûlaient les meubles. Ils utilisaient les bois de charpente jusqu'à ce que la maison s'écroule, ça leur était égal. Il n'y avait aucune punition. À la campagne, ils utilisaient toutes les provisions de la famille. Tout y passait. Le foin, le sel, tout ce qui avait été. Alors, est-ce qu'ils pouvaient le cacher? Ils auraient pu le cacher s'ils avaient été avertis à l'avance de l'arrivée de cette cavalier, mais on ne les avertissait pas. Donc, il y a des chances que ce village ait été complètement ruiné, vous voyez, en 1748. Alors, après la construction du pont cardinal, le village s'endort, si on peut dire. En tout cas, il reste dans son jus. Et c'est pratiquement un des rares villages du nord de Brive à être resté complètement intact, on peut dire. Il y a pratiquement peu de maisons neuves. C'est pas un coin qui doit attirer les gens. C'est un petit peu isolé, vous voyez. Mais c'est tout près. C'est tout près de nous. Voilà pour Fada. Oui. Et nous passons à la Pigeonnie. Alors, la Pigeonnie, c'est le seul gros village qui se trouve au nord de la Corrèze. À part ça, ce sont simplement des mâts qui sont tout à fait isolés. Et vous voyez qu'en fait, la Pigeonnie n'est pas sur la route du XVIIIe siècle. Cette route du XVIIIe siècle, elle débite. Elle passe là. Mais le village de Fada est sur une autre route, vous voyez, qui va vers Hussac et qui venait de Brive. En somme, c'est sur une route Brive-Hussac. Et c'est un village rue, vous voyez, il est tout le long de la rue. Bon, alors là, évidemment, c'est un village qui, lorsqu'on a construit la route au XVIIIe siècle, a été fortement modifié. On a sûrement construit beaucoup de ces maisons, vous avez là, en particulier, certainement, celles qui sont en dehors de la route. D'autre part, vous voyez qu'il y a deux grands domaines. Un domaine ici, et un autre domaine là. Et ces domaines appartiennent à des bourgeois de Brive. C'est des bourgeois qui ont de relativement grandes propriétés. Quant aux familles, on a un peu le même problème qu'à Fada. Ça commence avec un monsieur qui s'appelle Pierre Pigeot. Donc ce monsieur Pierre Pigeot, il a donné son nom à la Pigeonnie. C'est donc pas la peine d'essayer de chercher s'il y avait un pigeonnier ou quelques pigeons en train de voler dans le coin, c'est monsieur Pigeon. Alors pourquoi il s'appelle Pigeon, c'est autre chose. Ça, du coup, j'en sais rien. Ce monsieur Pigeon, ça a les mêmes problèmes. Il s'appelle tantôt Pigot, tantôt Pigeon. Ça veut dire qu'on est dans un coin ici, comme d'ailleurs toute cette région, où tantôt on chante et tantôt on prononce un peu dur. Tantôt on dit la chassagne et tantôt on dit la cassagne. Et là c'est pareil, hein. C'est tantôt pigeot, tantôt pigot. Mais enfin vous dites la pigeonnie, vous dites pas la pigonie. Mais ça c'est à cause des pigeons. Ça. C'est purement à cause des pigeons. Alors donc ce village est absolument encerclé de vignes jusqu'au phylloxéra. Et les familles de ce village, et même ce village en dessous, enfin des mâts en dessous, sont essentiellement des vignerons. Et ces vignerons, donc, sont métayers des bourgeois de Brive, ou avant eux, des seigneurs de la région de Brive. vous donne l'exemple de la famille Bonne. C'est elle qui remplace à peu près les Pigeot. Et on a un petit peu le même problème. C'est-à-dire qu'en 1581, donc en pleine guerre de religion, 1581, on a Géraud et Antoine Bonne. Géraud dit Giraldou, fils de Pierre Bonne. Bernard dit Pelotou, c'est pas ses parents. Giraldou et son frère Pierre. Ensuite, Pierre Bonne dit Bobby. Jean Bonne dit Loubeg. Et Guinaud dit Goubet. Voilà, alors après, ils vont peut-être s'appeler Goubet et puis Loubet, hein, c'est normal. Mais c'est rien des Bonnes. C'est rien des gens qui s'appellent Bonnes de leur nom réel. Et les seigneurs rentiers, à qui ils paient la rente, c'est donc le prieur de Brive, qui est très intéressé par ces vignes, et la famille de Barre. La famille de Barre habite au château de Pimaret à Malmort, et c'est donc probablement un don des seigneurs de Malmort qui leur a été fait. Enfin, en 1812, les 12 maisons du village, à l'époque en 1812, il n'y en avait donc que 12, sont entièrement brûlées, parce qu'il y avait un vent très violent qui soufflait, c'était au mois de novembre, elles sont entièrement brûlées parce qu'elles étaient couvertes de paille. Donc vous pouvez vous dire que les maisons actuelles de la Pisonie, il n'y en a pas une seule qui soit une maison d'origine. C'est des maisons du 19e siècle. Voilà pour la Pisonie. Alors là, je vais passer justement au prieur. Le prieur de Brive est très intéressé par toutes ces régions, surtout les régions de vigne. Il n'a aucun droit de justice. La justice dans tout ce secteur, la haute justice, elle est faite par les seigneurs de Brive, qui sont d'une part les seigneurs de Malmort et d'autre part les seigneurs de Turenne. Mais en revanche, le prieur, il a, comme vous le voyez, beaucoup de biens. Alors on sait exactement ce qu'il a, parce qu'à partir du XVIIe siècle, il a partagé avec ses chanoines tous les revenus qu'ils avaient, et à partir de ce moment-là, on sait exactement dans quel village il avait des revenus. Et vous voyez que ça concerne essentiellement les prés, toujours cette région basse, les Pararines, en accord avec Aubazine, ils sont tous les deux, ce qu'on appelle le bout du pont, c'est-à-dire l'endroit où il y a maintenant le pont, qu'on appelait aussi Scapitadour, je ne sais pas ce que ça veut dire, là, il faudra chercher, ensuite les Bélis, ensuite l'ancien nom des Bélis, c'est-à-dire Armaillé. Ça, c'est l'ancien nom des Bélis. Armaillé, ça veut dire le fabricant d'armure. Et effectivement, on trouve un fabricant d'armure vers 1300, quelque chose comme ça. Donc, c'est un village qui a changé de nom. Un jour Armaillé, un jour les Bélis. Et puis, ça continue sur un lieu d'Ijouf, hein, qui a disparu. Savozou, que vous connaissez déjà, sous le nom de Sanazo. Et la chaise Bielle. Cette fois-ci, elle est considérée comme vieille. Ça se passe non plus en 1145, c'est-à-dire l'époque de Basile, mais ça se passe, disons, au 14e siècle. Vous voyez. Donc tout ça, c'est bien que les chanoines et que les prieurs se partagent, donc dans cette partie nord de Brive. Au sud de Brive, le prieur possède de véritables villages. Là, par exemple, tout le village de Bellet. C'est-à-dire qu'il a à la fois la justice, les rentes et l'ensemble de la seigneurie. Mais ici, les seigneurs ont quand même réussi à garder la haute justice, c'est-à-dire la seigneurie, de toute la région. Évidemment aussi, il y aura quand même ce qu'on appelle des fiefs, c'est-à-dire des lieux où la petite justice, la basse justice, a été donnée à des seigneurs. Et on va voir donc quels sont ces fiefs. Alors, je commence par le fief du Griffolet. Alors, vous êtes pratiquement pas loin de Chasteloup. Vous êtes dans ce coin qui est le confluent de la Corrèze, du Montmont et de la Bézère. Vous voyez. Donc, vous êtes dans l'extrême bourg de Brive. Alors, c'est un fief qui a été d'abord à un très grand bourgeois de Brive qui s'appelait Régis, ou du roi, et qui s'est fait appeler, ou du moins ses descendants se sont fait appeler ensuite du Griffolet, du roi du Griffolet. Il possède, vous voyez, un certain nombre de mâts, Alors ces mains, c'est un mât qui s'appelle le ray. Voilà. Il y a un deuxième ray de l'autre côté, mais c'est ce ray-là qu'il possède. Ensuite, il a Chanou, qui est dans la colline. Ensuite, il a Cana. Ensuite, il a Chastelot. Et enfin, il a Antissac, qui est sur Ussac. Vous voyez que ça fait un beau petit fief. Et il se fait donner la justice, c'est-à-dire qu'il devient le seigneur complètement, à part entière, de tout ce coin. Cette famille du Greffolène persistera jusqu'à la Révolution. Et c'est seulement après la Révolution, parce qu'ils ont émigré, que leurs biens seront vendus. Mais si vous voulez, tout ça, c'est leur domaine. Et nous sommes pratiquement, vous voyez, dans le coin de Chastelot. Ça montre que c'est une espèce de zone stratégique qui a déterminé l'existence d'un fief. Mais les seigneurs de Malmort et du Rennes n'ont pas voulu qu'un fief s'installe au milieu de Brive ou trop au centre. Vous voyez, ils ont accepté un petit fief de limite. Ça, c'est le fief donc, du Greffolène. Et le deuxième, alors il est beaucoup plus connu, c'est le fief de Lacan. Voilà Lacan. Voilà le plan des propriétés de Lacan, disons, au temps du cadastre, c'est-à-dire au XIXe siècle. Vous voyez, Lacan recouvre toute cette zone et continue sur Malmort. Et c'est là encore un petit fief. Un petit fief qui dépend, lui aussi, des seigneurs de Malmort et du Rennes. Lui aussi, donc, un petit fief de bassin. Ensuite, comme le fief du Greffolène, il a appartenu assez rapidement à une famille qui s'appelle la famille Régis, du roi, là aussi, et de bourgeois en bourgeois, on se passe ce fief. Il semblerait qu'au début, il y ait eu une famille de demoiselles qui s'appelait Lacan, et qui a donné son nom donc, à ce petit repère, mais en réalité, très rapidement, c'est devenu donc un fief de bourgeois de Brive. Comme l'autre, c'est un fief de limite, vous voyez. Vous vous retrouvez ici à Malmort. Et d'ailleurs, en 1250, mais donc au XIIIe siècle, les seigneurs de Malmort se font rendre des reconnaissances de terre, et à cette époque-là, il y a deux mâts. Un mât qui s'appelle le mât de Lacan par Brive, c'est-à-dire côté Brive, et un autre qui s'appelle le mât de Lacan côté Malmort. Donc ça a toujours été, si vous voulez, une limite. C'est donc ensuite passé de famille bourgeoise en famille bourgeoise, et jusqu'au XIXe siècle, ça a conservé cet énorme domaine. Vous voyez, c'est 80 hectares quand même. C'est un des plus grands domaines de Brive. Et là aussi, un domaine de limite. C'est pas au milieu. Le milieu, les seigneurs de Malmort et Brive et de Turenne sur le réserve, mais c'est aux limites, vous voyez. Et d'autre part, c'est limité entre Malmort et Brive par un chemin qui descendait, qui traversait au Moulin des Bornes et qui continuait en direction de Ponac. Autrement dit, une limite très nette entre Malmort et Brive. C'est vraiment la limite des deux communes. De l'autre côté, c'était limité par le chemin qui montait vers Migoule. Migoule, une maison jusqu'en 1923. Alors, je ne sais pas s'il existe encore. Hein. Là, ça vaut la peine de la chercher. Parce que maintenant, il y a quand même. Bon, il y a quand même un beau lotissement. Hein. Mais voilà, Migoule n'avait qu'une maison, donc jusqu'en 1920. On continue. Et j'arrive à une carte pour vous expliquer un petit peu mieux ce qui se passe aux alentours de 1880, 1900. Donc le pont cardinal existe, il est un petit peu étroit. Comme vous pouvez le constater, on commence à bien habiter le long du faubourg qui s'appelle souvent le faubourg d'Edé. Mais bon, le quartier de Leclerc n'est pas encore vraiment habité. Hein. Tout ça, c'est encore appartenant à la famille Leclerc. En revanche, si vous passez au nord du pont, vous constatez qu'il commence à y avoir des petites maisons le long de l'avenue de Paris. Ça s'appelait à l'époque l'avenue de Paris, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors qu'est-ce qu'il en reste? Je pense qu'il en reste une ou deux maisons qui sont là. cette ci-là, de ce côté-ci. Les autres, je pense qu'elles ont été démolies. Ensuite, le long de la route, on appelle la route d'Angoulême, pas de maison. Et puis, alors à partir de 1880 seulement, les abattoirs. Les abattoirs, ça va être là-haut, à l'emplacement de l'actuel centre des impôts.
Oui.
Vous voyez qu'on a bien choisi l'endroit pour les mettre. Eh bien, vous aviez les abattoirs.
C'est le bon endroit.
Eh bien oui, c'est l'endroit. Et à cette époque-là, quand on a construit ces abattoirs, tout autour, c'était des prés. Et d'ailleurs, on laissait les bovins dans ces prés. Et ça a duré comme ça jusqu'en 1920-1930. Alors, de l'autre côté, voici ce qui reste de l'ancien chemin, voilà, qui traversait, vous voyez, qui prenait à peu près l'avenue Michel-Larousse. Ensuite, vous auriez l'hôpital. Il en reste un tout petit morceau, près de l'hôpital, qui fait une espèce de petite... qui tourne comme ça, et qui doit s'appeler le chemin ou quelque chose. Ça part de l'avenue Michel-Larousse. Ça passe par derrière, c'est des tonniers, hein, on ne peut pas aller. Et ça rejoint derrière, quoi, le carrefour, peu près. Alors vous voyez que là, il n'y avait presque pas de maison. Bien entendu, l'hôpital n'est pas construit, puisque c'est seulement 1900. Il y a un endroit qui s'appelle le Point du Jour, qui doit être une auberge sur ce chemin. Et c'est un ancien chemin, donc qui va être là. Ensuite, vous pouviez passer sur la passerelle, en 1880. Et puis remonter, toujours vers Pada, un ancien chemin qui s'appelait le chemin du Vialmur. Et puis vous voyez qu'il y a très peu de maisons. Le long de cette avenue, qui s'appelait à l'époque donc tout simplement la route, quoi, la route départementale, ben, il n'y a que quelques maisons. Alors celle-ci s'appelle le Petit Saint-Germain, et ça appartenait à un bourgeois de Brive. Et puis vous avez l'octroi, qui montre la limite de Brive. Un octroi, c'est quand les paysans qui rentrent dans la ville sont obligés de montrer tout ce qu'ils ont dans l'intention de leur vie. Et il y avait des octrois, beaucoup d'octrois un peu partout. Voilà, et puis vous avez les anciens chemins. Alors, en 1880, le pont du Buis n'est pas reconstruit. Donc, c'est un chemin en impasse. Ça mène à rien du tout. Et en fait, si on voulait aller à Malemort, eh bien, on prenait cette route-là, tout simplement, qui passait... par des bords, quoi, qui existent toujours. Et on passait sur cette rue-là. Il n'y avait aucune raison de prendre l'autre rive, sauf quand on a fait cette route. Mais cette route, elle est tarnie. Vous voyez comment était la Vierge à cette époque-là. Elle occupait quand même plus de place. Elle a été beaucoup diminuée, la pauvre. Elle voit maintenant à ça, à peu près. Voilà. Et puis, le très petit nombre de maisons. Vous voyez là, ça vous donne un paysage presque campagnard. On entrait dans Brive, on voyait quelques maisons le long de la route, c'est tout ce qu'on voyait. Vraiment très peu de choses. Ça, c'est 1880. Alors, on avance. On va passer à plus tard. Oui, vous pensez à quelque chose?
Non. Là, c'était 1890 et on passe à vers 1900.
Voilà, parfait. Alors, 1900. 1900, ça commence, vous voyez, à se construire. Alors, d'une part, il y a ces abattoirs. Ils ont déterminé la construction de petites maisons en brasier. Vous savez, ces petites maisons un peu d'un étage, ou deux étages à la rigueur, mais pas plus, assez étroites, très simples, et faites de cette pierre un peu grise, la pierre de Brive, et cette pierre de brasier. Ces maisons-là, on les retrouve dans ces rues-là, qui commencent à être peuplées, c'est-à-dire la rue de la Chambaudie. Ces petits trucs existent toujours. Si vous voulez voir des maisons qui datent des années 1890-1900, vous allez dans ce coin-là et vous trouvez ces petites maisons. Elles sont toutes ou presque habitées, soit par des teinturiers, parce qu'il y avait des tanneries et des teintureries dans cette zone, voilà, ici. Ensuite, des femmes qui avaient le linge, des blanchisseuses. Et vous voyez qu'on a construit des lavoirs, toujours dans ces années-là, au bord de la Corrèze. les gens de la boîte se plaignaient d'ailleurs que les femmes de Brive, au lieu de venir laver leur linge là, parce que c'est quand même loin, hein, ça veut dire qu'il fallait qu'elles trimballent tout le linge sur une brouette avant de s'y retrouver, avaient tendance à le laver soit dans le canal, soit dans l'autre canal, voilà, dans les deux canaux, qui à l'époque étaient découverts et qui permettaient effectivement de très bien laver le linge. D'ailleurs, ça, il y a peut-être des gens qui s'en rappellent quand même. Des canaux découverts.
Oui,
bah oui. Bah oui. Les changements d'entrée, c'est les années 70. C'est pas avant. Donc je pense qu'ici, il y a quand même des gens qui ont des souvenirs antérieurs. Et puis surtout, la gloire de Brive, c'est l'hôpital. Alors l'hôpital, ça a pris beaucoup de temps à être construit. On a commencé les premiers plans et décidé de le construire là au lieu qu'il reste à Puylan dans les années 1880. Seulement, on voulait d'abord construire le collège. Donc, on a commencé par construire le collège. Ça a coûté très cher, il a fallu attendre un peu. Et nous arrivons seulement vers 1898 pour l'hôpital. Il va quand même coûter 1 million. 1 million de l'époque, c'est énorme. Hein. Ça veut dire que c'est un très bel hôpital, que Brive se construit exactement comme il s'est construit un très beau collège. C'est-à-dire que les gens de Brive. Et non seulement.
C'est la ville qui paye ?
Non, c'est pas la ville qui paye, c'est le ministère de l'Agriculture, figurez-vous. Je ne sais pas pourquoi. Il y a bien voulu payer une partie. Je crois que Brive a payé 100 000 francs là-dedans. Sur 1 million, c'est correct. Il y avait surtout eu des grosses discussions au conseil municipal. Il y avait en particulier un monsieur Sicard, qui était prof de dessin, et qui était très excité. Chaque fois qu'il y avait un discours à faire, c'est lui qui le faisait. À tel point que les autres conseillers municipaux, quand ils savaient qu'il arrivait, se faisaient porter panne, parce que ça durait des heures, on y restait jusqu'aux heures du soir ou minuit. Alors M. Sicard, il avait son idée sur la question. Il disait qu'il fallait d'abord construire un théâtre, et après un hôpital. Et il expliquait que les ouvriers venaient au théâtre. Alors les autres expliquaient que non, que les ouvriers n'allaient pas au théâtre. Alors ils commençaient à discuter sur le type de pièces qu'on jouait au théâtre. Alors on discutait entre savoir si c'était de l'opéra comique ou si c'était des opérettes. Mais c'est pas pareil. Un opéra comique, c'était paraît-il très élevé. Et une opérette, c'était vendu. De toute façon, bon, les autres conseillers municipaux lui disaient que les ouvriers n'allaient pas au théâtre. Alors ils répondaient qu'ils n'allaient pas non plus à l'hôpital. Et qu'ils voulaient mourir chez eux. Et que personne n'avait envie d'aller à l'hôpital. Et ça, c'est vrai. Ce n'est pas bien à l'hôpital. On était pas grand-chose. Et ça a discuté pendant des heures. Et des jours jusqu'à ce que M. Sicard soit muté à Blagne en Gironde. Alors, ses amis ont poussé des cris d'orfraie au conseil municipal en disant « Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Pourquoi le ministère de l'Éducation nationale l'a muté? C'est scandaleux, c'est une histoire politique. » Le maire était bien content. Et les séances du conseil municipal ont repris leur ronron habituel, qui était quand même beaucoup plus calme. Et voilà donc ce magnifique hôpital. Il est inauguré en 1900, mais vous voyez que ça n'a pas encore déterminé une très grosse population. Lorsqu'on regarde le recensement de 1923, l'avenue Michel Larousse, ça, il y a une maison. Et tous les autres gens, ce sont des gens qui sont des employés de l'hôpital. Ça veut dire que, vous voyez, 1923, ça commence à peine à se construire. Vous trouvez encore, vous voyez, les anciens tracés de chemin. Tout le quartier d'ici, ce quartier de l'hôpital qui est très beau, qui fait de très belles maisons, n'est pas encore construit. Vous voyez, nous sommes en 1900. Il y a encore des petits domaines bourgeois. Mégane, ici, il y aurait le petit Saint-Germain, là, il y aurait le grand Saint-Germain, ici, Tout ça, c'est encore des très grands domaines, vous voyez, appartenant à des bourgeois. Et en particulier à la famille Maillard, qui était aussi propriétaire d'un des domaines de la pigeonnie, c'est-à-dire une grosse famille de Brive. Vous voyez que ça commence tout doucement. Nous sommes donc aux alentours de 1900. On voit aussi que peut-être la ville a fait un effort pour les enfants, et semble-t-il, la maison qui est ici est déjà une école, la fameuse école du Pont Cardinal, qui était une école qui récupérait probablement surtout les enfants de ces quartiers-là. Parce qu'à l'époque, il y avait encore très peu de monde de l'autre côté de la Corrèze. Voilà pour 1900. C'est ce que je vous ai dit pour 1923. Là, vous avez exactement le nombre de feux, si vous préférez, de maisons, qu'il y a dans chaque village. Alors, ce qu'on constate, d'abord, je les ai faits en violet, c'est les endroits qui se sont peuplés. Mais ils se sont peuplés à la suite de la construction du chemin de fer. Vous les voyez le long de la ligne de Périgueux, voilà, le long de la ligne de Paris, et c'est Estabel, mais il n'y a encore que 43 maisons à Estabel, c'est pas encore un très gros bourg. La Borie, 65, Voyer, 29, et surtout le Tilleul, qui est au-dessus de Brive, qui est vraiment un des quartiers où pouvaient s'installer les cheminots. 55, mais c'est pas encore grand-chose, vous voyez. En fait, ils habitent Brive. Ils habitent dans cette zone. De l'autre côté de la Corrèze, c'est la tranquillité parfaite. Les gens, en 1923, pouvaient encore aller sans problème à pied le long d'une avenue qui était bordée d'arbres, jusqu'à Pompon-les-Roses, qui était la balade côté ouest, ou bien jusqu'à Lacan, s'ils le voulaient. Tout ça avec des chemins bordés de marronniers, d'arbres, tranquille. Il y avait quelques voitures, mais pas grand-chose. Vous voyez le nombre d'habitants. Mégane, 2, Lacan, 6, 6 familles, Bel Air, 4, Migoul, 2, Le Pigeonnier, 1, Gignac, 1. Alors la Pigeonnie, 42, mais c'est pas encore, c'est pas monstrueux, 42 familles. De l'autre côté, c'est encore plus faible. 22 habitants à Costenègre. Costenègre, c'est cette colline qui commençait à se peupler au-dessus de l'abattoir, avec des villas, des choses assez élégantes. Le Bialmur, 15 habitants, ce sont tous des vignerons. Il y a eu Phylloxera, mais ils sont encore là. Les Béliots, 3. Pampan, c'est-à-dire la route du côté à peu près du garage, qui se trouve à mi-chemin vers la sortie de Brive, 3 habitants. Sauvageau, alors maintenant c'est carrément Sauvageau, 7 habitants. Bébé Libas, 4. Rivet, 2. Et Chamou, 5. Et enfin Cana, 3. C'est rien du tout. Et vous voyez pareil, d'ailleurs, de l'autre côté de la Corrèze. Dans ce qui viendra des quartiers vraiment avec des énormes lotissements, 4 habitants à Gaure, 2 aux Frieurs, 6 à Cujac. Vous voyez que c'était la campagne, il y a 100 ans. C'était la totale campagne. En fait, les gens s'étaient massés, soit dans le centre, soit dans cette zone. Que je n'ai pas fait, parce qu'évidemment, là, je ne peux pas vous donner le nombre d'habitants, c'était assez. La campagne, c'était la campagne. Et ça permettait évidemment pas mal de prendre la ferme. Ça a été le nom qu'on dit. Alors, nous arrivons maintenant dans les années 1930. Cette fois-ci, c'est le maire de Brive qui va débloquer la situation, d'une part en construisant le pont de la Bouvie, 1934, le pont du Bouix en 1933, un an avant, qui va rendre la passerelle aussi praticable en 1929, et qui va élargir le pont Cardinal, tel qu'il est maintenant, également en 1929. Autrement dit, c'est le maire de cette époque, 1929-1930, M. Chapelle, qui est un petit peu le lanceur de cette région. Et il y a un petit peu des raisons, parce que la famille Chapelle était une des familles qui avait le plus de terres dans toute la zone qui se trouve ici. Vous voyez, jusqu'au Bialmur, qui était la plupart du temps d'anciens domaines achetés au moment de la Révolution, au moment des Landes de biens nationaux. Autrement dit, il avait effectivement intérêt à mettre en activité ces thèses. Parce que je ne sais pas si vous imaginez cette situation qui se passe vers 1930 avril, où il y a d'énormes domaines, et où ces bourgeois, ces propriétaires, vont pouvoir vendre petite parcelle par petite parcelle, pour faire une maison chaque fois, ces terres, mais indéfiniment. C'est une rente extraordinaire. Bien entendu, c'est du coup de l'étudier de près, parce que je ne veux pas bâcher quand même des gens. Hein. Mais c'est un fait que ça, que la bourgeoisie brive a été une bourgeoisie rentière à ce moment-là. Alors là, vous voyez que ce quartier-là est complètement construit. Il date donc de ces années 1930. C'est toutes ces très belles villas qui font un contraste avec les petites maisons de ce quartier-ci. Ces petites maisons d'avant 1900 et qui étaient en fait des maisons, comme je vous l'ai dit, de teinturiers, de commis d'abattoirs, etc. On commence doucement à peupler, vous voyez, cette zone-là. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelques maisons. On ne peut pas en dire plus. Et puis quand même, on a baptisé la rue Turgot, qui était l'ancienne route d'Angoulême, tout simplement. Et elle aussi, on commence à y construire des maisons. Mais ça va doucement. Et même autour de l'abattoir, ça commence doucement à se peupler. Et du coup, on commence à se poser la question, avant la guerre, de savoir si on va garder l'abattoir là. Parce que justement, dans ces prés, commence à se construire des maisons. Et puis les gens du quartier commencent à dire que ça sent mauvais, que c'est pas bien, etc. C'est pas ça, présence de l'abattoir. Mais enfin, on va quand même attendre. Voilà donc pour cette situation avant la guerre. Et nous arrivons après la guerre. Même avant, puisque nous commençons en 1931-35. En 1931-35, on va commencer à imaginer des logements collectifs. Et le premier de tous les logements collectifs de Brive, c'est la Cité des Roses. C'était une très belle cité. À l'époque, les gens de la campagne venaient la visiter parce qu'il y avait l'eau courante. Et ça, c'était génial, parce que l'eau courante, il a fallu, bien après la guerre, pour le vraiment réajouter l'eau courante. Donc, construction de cette église, de ce quartier des Roses, qui était donc ce qu'on appelait un quartier à loyer modéré. Vous voyez que c'est à peu près tout pour l'avant-guerre. Et il faut attendre les années de la guerre, 1941-1946, pour voir très doucement se construire le quartier qu'on appelle la Cité Maillard, voilà, qui est de l'autre côté du pont. Oui, vous voyez ces grandes maisons, bien construites, d'ailleurs, qui sont très bon matériel, et qui sont donc les maisons de la Cité Maillard. Comme vous le voyez, jusqu'ici, personne n'a touché au sud de Brive. Vous voyez, en pleine guerre, on pense au nord de Brive, mais on ne pense pas au sud de Brive. Et alors, de 1954 à 1961, on passe alors à la vitesse supérieure. D'abord parce qu'il y a beaucoup de retours de gens d'Algérie. On aura encore plus après 61. Il y a aussi beaucoup de familles émigrées, enfin de gens venus d'Afrique du Nord pour travailler. Et tout ça, ça demande du logement. Et c'est donc la période 54-61. Alors le quartier des Châtelliers, voilà, du moins une partie du quartier des Châtelliers, est Gaubre. Vous voyez qu'on passe au sud maintenant de Brive. On passe ensuite à 62-67. Alors là, c'est l'explosion. Justement à cause aussi des retours des gens d'Algérie. Là encore, c'est essentiellement le quartier du Chapelier qui va être sollicité, vous voyez. Et enfin, on passe aux années 68-74, et cette fois-ci, c'est le tour de Tujac. Vous voyez, là, on fait vraiment des très gros centres. La cité Bouygues et puis Tujac. Et enfin, la dernière construction, ça sera Rivet. Alors là, retour au nord de Brive. Alors là, sur une colline bien tranquille, on va donc établir un très gros centre d'immeubles collectif, puisque ça va jusqu'à 800 logements. On est très très loin des deux habitants de Rivet. D'un seul coup, on se retrouvait plus de 1500, sans problème. Vous voyez comment la construction de ces choses collectives s'est produite. Pourquoi là plutôt qu'ailleurs? C'est surtout parce qu'il y a de la place. Il est évident qu'ils ne pouvaient plus construire à proximité du chemin de fer, c'était déjà complètement bâti. Ils ne pouvaient plus construire non plus dans des endroits trop élevés, sur les collines. Rivet, c'est vraiment tard, et c'est parce que, à cette époque-là, l'eau courante commence à arriver sur les collines. Jusque-là, jusqu'à ce qu'on ait tapé de l'eau de la Vézère, parce que c'est l'eau de la Vézère qui sert pour ça, tout le monde se tenait dans les fonds, tout simplement parce que c'était le seul endroit où l'eau arrivait, l'eau de pompage. Ça a toujours été le problème numéro un pris, le problème de l'eau. Et donc il faut attendre les années 70, ou à peu près, 68-70, pour que vraiment les collines se peuplent. Et là, ces collines, là, elles se peuplent de petites maisons, et cette fois-ci, il n'y a plus question de logement collectif. Voilà, je crois que c'était... Non ? Ah oui, je voulais vous montrer pour conclure l'encerclement de Cana, que je vous expliquais tout à l'heure. Vous voyez que c'est impressionnant. Ça, c'est la carte IGN de 70. C'est encore très calme. Vous voyez ? Alors, il n'y a pas encore l'autoroute. Il y a seulement la route nationale, la départementale, en bas, hein, qui longe la Corrèze. Le chemin de fer, bien sûr, il y a le chemin de fer, mais c'est pas très dangereux, le chemin de fer, hein, ça. On ne construit pas le long du chemin de fer. Et puis, c'est tout. Cana, Chasteloup, tout ça, c'est bien préservé. Ça, c'est les années 70. Et alors, d'un seul coup, vous passez à la carte IGN actuelle, c'est-à-dire une carte des environs de 2000, on va dire. Alors, bien entendu, le chemin de fer, bien entendu, la route ancienne, ensuite la voie rapide, et puis y a l'autoroute. Où est-ce qu'elle est, l'autoroute? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc vous voyez, le malheureux coin a complètement encerclé.
Ah oui.
Chemin de fer, voie rapide, départementale et autoroute.
Ah oui.
C'est complètement encerclé. Alors, je ne sais pas si on pourrait monter là-haut à aller chercher des tessons de poterie galéromaine. Ça me paraît difficile. Hein. Pas trop ce qu'elle en. Mais c'est, si vous voulez, c'est le coin de Brive qui a été le plus attaqué, le plus encerclé, le plus attaqué par l'urbanisation. Et d'une manière, alors là, absolument totale. Voilà. Et j'espère que vous ne pas trop. Bien sûr, sur chacun des bras, parce que ça s'appelle des bras, que ce soit les délits, que ce soit pampan et ainsi de suite, on a des notes beaucoup plus précises. On sait très bien qui étaient les propriétaires et comment ça se passait. Pour vous donner une idée de la valeur, par exemple, de ces domaines, au XVIIIe siècle, on a beaucoup de ventes, on sait comment ça se vend et comment ça s'échange. Un beau domaine, ça vaut 15 000 livres. Alors, il faut vous donner une comparaison. C'est la dot d'une famille, de très bonne famille bourgeoise. C'est un grand domaine, un beau domaine, on va dire un domaine de 30 hectares. Ensuite, un petit domaine, ça va coûter 5 000 livres. Et c'est la dot d'une famille de petite bourgeoisie. Vous voyez ? Ça ne rapporte pas énormément. On considère qu'un hectare, ça rapporte à peu près 100 livres par an. C'est très peu. Fait pour finir un domaine, ça va vous rapporter pas beaucoup de problèmes. Et la conséquence, c'est que tous ces bourgeois, ils ont des domaines, mais c'est pas ça qui les intéresse. Ce qu'ils essayent d'avoir, c'est ce qu'on appelle des offices. L'office, c'est un métier de justice, à l'époque, ça se vendait, et donc c'est être huissier, être juge, être lieutenant juge, ça c'est le titre, lieutenant criminel, lieutenant civil, ça se vendait. Et alors là, on passe tout de suite à des sommes du type 40 000 livres. Vous voyez, le prix de deux domaines, trois domaines. Une fois qu'on l'a, évidemment, le roi vous paye. Vous avez une pension. Elle est beaucoup plus élevée que ce que pourrait vous apporter un domaine. Alors finalement, est-ce que c'était intéressant d'avoir ces domaines? Est-ce que vraiment les bourgeois de l'époque en avaient besoin? On s'aperçoit qu'ils les vendent. Ça vend et ça se revend. Ça sert un peu, si vous voulez, de ce que nous faisons lorsque nous déposons de l'argent à la banque. Parce que quand ils avaient brutalement besoin d'argent, ils ne pouvaient pas vendre leur office, parce que l'office, ça restait dans la famille, mais ils pouvaient vendre eux-mêmes. Et ils le font souvent. Ils le font dès qu'ils marient une fille, dès qu'il y a un problème quelconque dans la famille, le père de famille est mort, et donc la femme le vend pour pouvoir vivre. Voilà. C'est donc pas évident, vous voyez, jamais la terre n'a rapporté comme pouvaient rapporter les métiers de justice. Et c'est pour ça qu'ils étaient tous non seulement propriétaires terriens, mais ils étaient aussi tous possesseurs d'office. Et c'est ça qui les faisait vivre, en réalité. C'était ces énormes frais de justice que les gens payaient. Alors on peut se demander pourquoi les gens faisaient tant de procès. Et ça, c'est vrai. Pourquoi ils faisaient tant de procès? Ils n'arrêtaient pas. Tous, les paysans, les marchands, tout le monde, et ils se ruinaient. Bon, disons que c'est grâce à eux qu'on a les papiers. S'ils n'avaient pas les procès, on n'aurait pas de papiers sur eux. Et ça, c'est l'essentiel de nos ressources.
C'est pour ça qu'ils l'ont fait.
Voilà. Merci.
Pour passer à la postérité. Voilà.